Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia, gloire à Dieu.
Imana ishimwe.
Nous sommes en train d'étudier le livre qui a fait couler le plus d'encre sur la terre.
Turiko turiga cha gitabo catumye haba ibitabo byinshi byandikwa bivuye kuri cyo.
C'est l'Apocalypse.
Et gitabo cyitwa ibya Yeshua Yohana.
Tout le monde est tellement intrigué par ce livre.
Abantu bose barifuza kumenya iby'iki gitabo.
Et on entend tellement de choses, de bêtises sur ce livre.
Hakaba n'ayandi mafuti avugwa kuri iki gitabo.
On entend tellement de choses qui ne sont pas du tout divines.
Ugasanga ibintu byinshi bivugwa kuri iki gitabo bitava ku Mana.
Des personnes qui ne comprennent rien prendre un verset à droite à gauche de l'Apocalypse.
Abantu sanga badatahura ibya kino gitabo mugaba bagomba gufata ijambo rimwe rimwe ryo muri iki gitabo.
Et c'est dommage.
Bakarisobanura kwabo
byababaje. Parce qu'il y a de puissantes et de merveilleuses vérités.
Kubera ko kino gitabo gifise ukuri kwinshi kwiza gukomeye.
Dimension spirituelle.
Gufise ubutunzi budasanzwe.
Des choses extraordinaires que Dieu nous révèle dans ce livre.
Mu vyimpwemu Imana itwereka biciye muri iki gitabo.
Donc on ne doit pas en faire un livre qu'on va méditer tous les jours.
Ntidushobora kukigira igitabo twokwama turimbura ko buri munsi.
Mais on doit comprendre l'Apocalypse.
Ariko turakwiye kugitahura.
Afin de rentrer dans différentes dimensions dans lesquelles Dieu veut que nous rentrions.
Kugira ngo dushobore kwinjira mu bitandukanye Imana biciye muri kino gitabo igomba ko dutahura kandi twinjiramwo.
Alors nous avions vu un certain nombre de chapitres.
Twamaze kwiga rero ibice muri iki gitabo.
Je vous rappelle qu'au début Jean commence par des salutations, il explique comment il a reçu sa révélation au début de ce livre.
Ntanguye kubibutsa Yohana tangura aramutsa.
Je fais des résumés régulièrement pour vous encourager.
Namangerageza kubigaruka ko ndabibusa kugira ngo ndabatera intege.
Et pour vous amener aussi régulièrement à méditer, à vous rappeler d'un certain nombre de choses.
No kugerageza kubagarukana mu by'intango kugira ngo mushobore gutahura no kurimbura kuri bimwe na bimwe.
Ce que je veux, c'est que vous appreniez à être extrêmement à l'aise avec votre Bible, avec la parole de Dieu.
Ico nifuza nuko mu ntumbero yanje mwoba abantu mugubwa neza atangorane mugira muri ko murasoma ijambo ry'Imana.
Un chrétien qui n'est pas à l'aise avec la parole.
Umukristo sanga ta atorohegwa afise ijambo ry'Imana.
C'est un chrétien qui va végéter à droite à gauche.
Utusanga agenda hirya no hino kugira rondere
kimugaburira. À l'aise avec sa parole.
Ariko Imana iragomba ko tuba abantu bahagukigwa.
On la comprenne.
Turitahura.
On la médite.
Turirimbure
ko. Qu'on s'en nourrisse.
Tugigaburire.
Qu'on aime sa parole.
Tukunde iri jambo ry'Imana.
C'est important d'aimer la parole de Dieu.
Ni bintu byoshye ko tuba abantu bakunda ijambo ry'Imana.
Mais c'est sûr qu'on ne peut pas aimer quelque chose ou quelqu'un qu'on ne comprend pas.
Ariko biragoye gukunda ikintu canke umuntu udatahura.
C'est pour ça que Dieu a donné le ministère d'enseignement pour qu'on puisse comprendre la parole.
Donc,
Jean, dans ce premier chapitre, voit Jésus, il voit Jésus glorifié, nous l'avons vu.
Et
là, il tombe sous la puissance de Dieu. Et Jésus se révèle à lui et va lui révéler dans le chapitre 2 et le chapitre 3 les sept messages aux sept églises, nous l'avons vu. Et puis au chapitre 4, d'un seul coup tout change. À partir du chapitre 4, vous ne verrez plus l'église sur la terre. Pourquoi? Parce que l'enlèvement s'est produit. Mais au chapitre 4, on a une scène céleste absolument extraordinaire, ce qui se passe dans le ciel, au troisième ciel. Nous avons plein de détails sur le trône de Dieu, sur tout ce qu'il y a autour du trône. Et nous avons étudié tout cela. Puis au chapitre 5, il va y avoir un livre qui a sept sceaux, qui est scellé. C'est-à-dire que dont la prophétie, dont les événements ne se sont pas encore produits. C'est ça que ça veut dire. Et on voit que ce livre est scellé de sept sceaux. Et le seul qui est capable et digne d'ouvrir le livre, bien sûr, c'est Jésus. C'est l'agneau de Dieu qui a vaincu la mort. L'agneau de Dieu qui s'est donné pour le péché du monde. Et donc, Jésus est digne d'ouvrir ce livre. Et c'est bien évidemment le début de la tribulation. Mais nous avons vu qu'on ne peut pas étudier l'Apocalypse comme ça, en faisant fi, c'est-à-dire en faisant comme si d'autres livres n'existaient pas dans la Bible. Il y a un certain nombre de révélations qui s'encastrent dans la révélation de l'Apocalypse. Entre autres, les prophéties de Daniel, qui nous donnent tout le schéma global de la fin des temps. Mais nous l'avons vu avec la perspective d'Israël, c'est-à-dire sans voir le temps de la dispensation du mystère, la dispensation de l'Église. Et bien sûr, il y a le livre de Matthieu. Et puis, il faut comprendre aussi un certain nombre d'événements qui nous sont révélés à nous, l'Église. Parce qu'ils vont concerner l'Église de Dieu uniquement. Et il y a trois choses qu'il faut savoir avant de pouvoir étudier la tribulation. Numéro un, nous l'avons vu, l'enlèvement de l'Église. Où Jésus va revenir la première fois. Je vous rappelle que Jésus va revenir deux fois. Et la deuxième épître aux Thessaloniciens nous parle des deux retours de Jésus. Aussi, la première épître va nous parler de l'enlèvement de l'Église. Donc, avec toutes ces révélations que nous avons, nous pouvons comprendre un certain nombre de choses. Donc, nous avons vu l'enlèvement. Les morts en Christ ressuscitent premièrement. Donc, tous ceux qui sont au troisième ciel actuellement vont ressusciter avec un corps qui sera incorruptible. Et la Bible nous dit que nous, les vivants, nous serons changés en un clin d'œil. Ensuite, nous serons dans les airs avec le Seigneur. Et retour au troisième ciel. Dieu va envoyer ses jugements sur la terre. Et il ne peut pas envoyer ses jugements sur ses amis. Parce que nous avons vu que la tribulation, c'est quoi? C'est l'œuvre de Dieu. La tribulation, c'est pas l'Antichrist, c'est pas
666.
La tribulation, c'est Dieu qui dit: ça suffit maintenant, il est temps que je reprenne la gestion de ma propriété. J'ai ouvert la porte à la grâce. Tous ceux qui ont voulu se donner gratuitement, ils ont pu recevoir le salut. C'est vrai qu'ils ont vécu certains, à certains moments, plus qu'à d'autres, de graves persécutions. Mais ils ont pu me louer et adorer librement sur cette terre en général.
Mais
là, Dieu va frapper la terre. Donc, nous avons vu que pendant le temps où Dieu va frapper la terre, pendant les 7 ans, eh bien nous aurons ce tribunal de récompense, nous passerons devant ce tribunal de récompense pour recevoir nos récompenses pour le millénium et pour l'éternité. Alors bien évidemment, nous avons remarqué aussi qu'il faut comprendre les 70 semaines d'année de Daniel. Et nous avons étudié ça dans Daniel chapitre 9. Et entre temps, bien sûr, nous avons fait un petit tour dans d'autres prophéties de Daniel qui nous donnent le schéma global de la fin des temps, entre autres la statue de Daniel qui nous montre ni plus ni moins une succession d'empires qui vont se dominer les uns après les autres. Et d'un seul coup, une petite pierre qui tombe, qui vient, et qui frappe les pieds de cette statue, et cette statue s'écroule. Et nous le savons que cette statue représente les systèmes de ce monde. Et la petite pierre, bien sûr, c'est Christ. Cette petite pierre devient une grande montagne qui se répand sur toute la terre. Et Daniel a des explications dans Daniel
2.
Et en fait, Jésus va venir et au travers de son royaume et va établir un royaume éternel qui lui ne sera jamais vaincu ou dominé par qui que ce soit.
Et
c'est au travers de ce royaume et de cette petite pierre qui va devenir une grande montagne que tous les systèmes de ce monde vont s'écrouler. Je vous rappelle que les systèmes de ce monde ont trois volets. Le volet politique, le volet économique et le volet social. Et Dieu va changer tout cela. Le jour où Jésus va venir régner à Jérusalem et établir un gouvernement mondial. Et là, il va régner 1000 ans.
Et
après, nous régnerons avec lui pour l'éternité quand il aura recréé la surface de la terre. Alors, à partir du chapitre 6, nous l'avons vu, il va y avoir les 7 sceaux qui vont être ouverts. Et c'est à chaque fois que l'on remarque à propos des sceaux, des différents sceaux, eh bien, on a d'abord le premier sceau jusqu'au sixième. Et pour le septième saut, va être une multiplicité de
jugements.
Donc il va y avoir 6 sauts qui vont être ouverts, il va y avoir des jugements de Dieu. Et le septième, lui, va être composé de 7 trompettes où il y aura encore 7 jugements. Et puis à la septième trompette, il va y avoir les 7 coupes de la colère de Dieu. Et comme je vous l'expliquais, dans la tribulation, qui va être coupée en deux, parce que la Bible nous parle de 7 ans de tribulation dans les 70 semaines d'année de Daniel, les 3 années et demie, les dernières 3 années et demie, la deuxième partie, s'appelle la grande tribulation. Et il va y avoir une accélération des jugements de Dieu. Et évidemment, Satan va tout faire pour augmenter ses signes, prodiges et miracles sataniques sur la terre. Donc Dieu va accélérer ce jugement. Le diable va essayer de tout faire pour emmener un maximum d'êtres humains. Et ça va aller de plus en plus vite. Plus on se rapproche de la fin de la tribulation, plus il y a de choses qui vont se passer. Et c'est exactement ce que vous retrouvez dans Matthieu 24. Nous avons vu que dans Matthieu 24, il y a toute une progression de ce qui va se passer sur la terre. Au début, c'est des guerres et des bruits de guerre. Et nous l'avons vu dans les premiers sauts. Et plus on avance, plus on voit que les choses deviennent horribles. Jésus dit même que si ces jours n'étaient pas abrégés vers la fin, personne ne pourrait être sauvé. Sous-entendu, personne ne pourrait garder son salut à ce moment-là. Parce que nous allons voir que Satan va faire des choses tellement abominables, tellement terrible qu'on n'aura jamais vu sur la terre, que même ceux qui sont élus, c'est-à-dire ceux qui ont reçu Jésus pendant la tribulation, seront tellement tentés de renier Christ, tellement ils seront persécutés, tellement ils ne verront plus aucune issue, que ce sera des moments horribles. Mais Dieu dit que ceux-ci seront sauvés s'ils vont persévérer jusqu'à la fin. fin.
Donc
je tiens à régulièrement rappeler cela parce que quand on étudie les jugements que Dieu envoie sur la terre,
on se dit, waouh,
mais quand même, Dieu là va faire mal aux hommes, il va en tuer une bonne partie. Oui, Dieu va tuer une grande partie des hommes. Dieu est un Dieu d'amour, mais dans cette période-là, Dieu va montrer sa colère des cieux. Là, actuellement, Dieu se laisse insulter. Les hommes se moquent de lui. Ils trafiquent avec les démons. Ils font toutes sortes de choses de péché. Mais Dieu, pour l'instant, a laissé sa grâce ouverte. Mais dans cette période-là, la grâce de Dieu sera ouverte, mais au prix très souvent de la vie des gens. Et Satan va faire des choses absolument abominables. Il va chercher à éradiquer la connaissance de Dieu sur la terre. Donc nous avons regardé les sceaux. Et nous avons vu ce premier sceau où les choses sont avancées, sont déterminées d'avance. Dieu va faire foncer les choses. Ça va s'accomplir. Ensuite, on voit des guerres. Deuxième saut, des guerres. Crise économique mondiale. Troisième saut. Et puis, cinquième saut, Dieu va éliminer un quart de la terre.
Détruire.
Et puis ensuite, il va y avoir une parenthèse où Dieu va mettre une protection dans le cinquième sceau pour ceux qui vont recevoir le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui vont se convertir dans la tribulation, nous l'avons vu. Ensuite, il va y avoir plein de phénomènes, des tremblements de terre, toutes sortes de choses qui vont secouer la terre. Puis nous avons vu chapitre 7. Dieu nous montre quelque chose de particulier à propos d'un certain nombre de juifs qui vont se convertir. Et là, franchement, quand on lit ces versets-là au chapitre
7,
on ne peut pas dire que finalement, ce sera tous les juifs qui vont se convertir, seulement
144,000.
Moi, je ne peux interpréter cela que comme ce sont les juifs qui vont se convertir dans la première partie de la tribulation. Parce que nous avons vu que la Bible nous parle dans Romains, au chapitre 11, qu'il va y avoir tout Israël qui va se convertir. Et Israël ne fait pas 144
000
personnes. Mais beaucoup plus que ça. Donc c'est clair que pour moi, c'est dans la première partie de la tribulation que les 144
000
vont se convertir. Et au sixième saut, on n'est pas encore dans la fin de la tribulation. Alors au chapitre 8, nous avions commencé à le voir. Et nous avons remarqué donc ça va être l'ouverture du septième sceau. Et le septième sceau nous montre un certain nombre de choses qui vont se produire. En fait, là, il va y avoir dans ce septième
sceau,
il va y avoir l'annonce des sept trompettes. Donc là, ça va vraiment s'accélérer, comme je vous le disais, au niveau des jugements de Dieu. Et on voit que dans ces sept trompettes, et je vous rappelle que la trompette souvent est synonyme d'un appel à la guerre, d'un rassemblement du peuple, c'est-à-dire qu'on va se préparer à faire quelque chose en commun. De déclenchement donc d'action divine, trompette céleste. Vous rappelez que pour l'enlèvement, Paul nous parle dans la première aux Thessaloniciens qu'il va y avoir un ange qui va sonner de la trompette et que Christ va revenir à ce moment-là. Donc la trompette signifie ces trois choses-là en général. Alors, la première trompette, nous l'avions vue. Il est parlé, nous l'avons vu, qu'un tiers de la terre va être consumée. Et je vous rappelle que Dieu ne détruira plus, la terre avec l'eau, mais il a dit. Il a dit qu'il ne le ferait plus dans Genèse 9, je vous le rappelle, après le déluge. Donc, il va détruire la terre, ou une partie de la terre en tout cas, avec du feu. Alors, ensuite, nous avons vu la deuxième trompette. Et là, on suppose très sérieusement que ce sont des tsunamis, que ce sont certainement Dieu va faire bouger les plaques tectoniques de la terre, et qu'il va y avoir des tremblements, des choses qui vont sortir de sous l'eau.
Biraboneka yuko Imana izonyiganyiza ibiri munsi y'amazi ku buryo hazoduga ibinyamugigima bikomeye nka bya tsunami ku buryo bizaba bikomeye cyane mwisi.
La troisième trompette, nous l'avons vu.
Hama inzamba ya gatatu twarayibonye.
Dieu va faire une chose, il va empoisonner l'eau.
Imana izoshira uburozi mu mazi.
Un ange va juger l'eau sur la terre.
Umumarayika azozana umururazi mu mazi.
Et je vous rappelle que l'eau, c'est indispensable pour la vie.
Ndakwibutsa ko amazi abantu batayafise ntibashobora kubaho.
Alors là aussi, je vous le rappelle qu'il y a un certain nombre de fois où quand la Bible parle des étoiles qui sont jetées sur la terre,
arondabibutsa ko hari gihe Bibiliya ivuga ngo inyenyeri zivuye mu ijuru zikorokera ku isi.
Il faut faire attention.
Parce que souvent
des gens ont interprété ça littéralement. Et vous savez, Dieu ne nous a pas donné la science pour que nous les chrétiens on dise la science ça ne nous intéresse pas.
Il
y a des découvertes scientifiques qui sont très intéressantes même pour nous les chrétiens, au contraire. Moi je suis étonné de voir tout le temps que les gens veulent que la foi et la science n'aient aucun rapport.
Non,
il y a un certain rapport entre la foi et la science. Là, par exemple, on parle d'étoiles qui tombent sur la Terre. Mais aucune étoile physique ne peut tomber sur la Terre. Il y aurait plus de terre en une fraction de seconde. Cette boule de gaz qui est une étoile, si elle tombait, elle engloberait la Terre, ça serait un tout petit grain de sable pour une étoile. C'est tout petit. Elle serait tout petite, la Terre. Alors, ensuite, nous avons regardé la quatrième trompette. Et là, dans la quatrième trompette, par contre, il est vraiment parlé d'un certain nombre de choses à propos du soleil et de la lune. Et là, nous avons remarqué qu'il y a des passages parallèles qui nous montrent que pendant la tribulation, il y aura des phénomènes très clairs à propos du soleil et à propos de la lune.
Biboneka izuba rizokora n'ukwezi kuzokora
bizohinduka. C'est clairement physique sur le soleil.
Ivyo rero ni ibintu bizokoreka kuzuba.
Et vous savez, ce qui est étonnant, c'est que on est tellement habitué aux choses qui sont autour de nous.
Ikintu rero gitangaje nuko kenshi ibintu bidukikuje turabimenyereye.
On n'est jamais en train de se poser la question si le soleil entre guillemets va se lever, c'est-à-dire la terre tourne, mais bon, si le soleil n'apparaîtra pas tel ou tel jour dans notre vie.
Na nitwigara tu kwibaza nk'umunsi warimwe ngo bega izuba riza guseruka uno munsi.
Tu mets ton réveil le matin parce que tu sais qu'à telle heure tu dois te réveiller et tu sais aussi que vers telle période de l'année, c'est vrai qu'ici ça change pas beaucoup, on est près de l'équateur, mais dans certains pays ça change beaucoup, mais tu sais à partir de telle heure il y aura le jour.
Urumva wewe uritegura uti ejo sanga pinzovyuka mu gatondo ukabuzi uko uzakuvyuka habona umuco waje.
Et tu sais aussi que vers telle heure il faudra être au lit parce que tu es fatigué et que c'est la nuit.
Ukabuzi ko hari n'indi saha habaza kuba hageze ko uja kuryama kubera yuko ubwa mbere amasaha aragiye kandi hari irabura hose.
Il y a plein de choses qui sont tellement habituelles. On est né dedans parce que Dieu les a mises.
Hari utuntu rero mwene utwo twiberamwo misi yose Imana yadushize ngaho.
Mais on ne se pose même pas la question, en fait, on se dit, bah voilà, bah c'est là, oui, parce que ça a toujours été là.
Ariko umuntu ntibaze n'ikibazo ati mbega biri ngaho kubera iki.
Mais le Seigneur a mis toutes ces choses, pas pour rien. C'est lui qui les contrôle. Et voyez, ce jour-là, réellement Dieu dira, voyez, c'est moi qui suis en contrôle de ça. Vous avec vos petites fusées, avec vos rébellions contre moi, je peux dire au soleil, arrête de briller et il s'arrêtera de briller. Dieu va vraiment montrer qui il est là. Parce que sa parole le dit, mais nous marchons par la foi, par rapport à la création, par rapport à tout ce que Dieu a fait. Et beaucoup de gens disent, mais non, ça c'est n'importe quoi. Mais non, tout ça c'est venu comme ça, par l'évolution, blablabla. Beaucoup de gens croient ça. Et ils sont stupides. Parce qu'il y en a un qui est en contrôle, il le dit dans sa parole. Et beaucoup de gens ne veulent pas le croire. Ce jour-là, croyez-moi, ils s'en rappelleront. Verset 13. Nous avions terminé le chapitre 8 la dernière fois. La Bible nous dit, je regardais, j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel et qui disait d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir.
Ndaraba numva inkukuma iguruka yatiriye ijuru ivuga n'ijwi rirenga itibara ibara ibara riza kubonwa n'abari mwisi kubga yandi majwi y'inzamba z'abamarayika batatu bahava bavuza.
Alors là, nous allons aborder le chapitre 9, et au chapitre 9, il va y avoir la cinquième et la sixième trompette. Je vous rappelle qu'on est en plein dans le septième
saut.
Et là, vraiment, Dieu va nous révéler dans sa parole pour la toute première fois, avec autant de précision, un certain nombre de choses qui sont assez uniques dans la parole de Dieu. Nous allons donc lire du verset 1er jusqu'au verset 12, s'il vous plaît, et on va faire des commentaires là-dessus. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Verset 2, et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Verset 3, de la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre et leur fut donné un pouvoir. Nous verrons ce mot pouvoir, littéralement, c'est une autorité légale. Comme le pouvoir, l'autorité légale ici qu'ont les scorpions de la terre. Verset 4, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe et à la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Verset 5, il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment causé que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici que vient encore 2 malheurs après cela. Ici, Jean va donc nous faire une description de ce qu'il va voir. Et là, c'est très intéressant. Parce que Dieu va nous révéler un certain nombre de choses sur l'abîme. Cette prison d'esprit où nous allons le voir, où il se trouve des démons emprisonnés, mais aussi des hommes.
Mais
là, ce qui est assez intéressant, c'est que Jean, d'un seul coup, va voir, en fait, au travers de la vision du monde spirituel, va voir ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Mais la prison d'esprit, contrôlée par Dieu, et où Dieu va nous révéler pour la toute première fois, c'est la seule référence que nous avons avec quelques autres dans l'Apocalypse, sur des créatures qui veillent, qui dominent sur cet endroit. Alors là encore, je voudrais faire tomber des croyances. Parce que vous savez, souvent l'ignorance va, je dirais, amener les chrétiens à croire et à dire des choses qui sont fausses. Et parfois même, des gens vont raconter des témoignages que beaucoup de gens vont croire. Et qui finalement ne sont pas du tout confirmés par l'écriture, au contraire. L'écriture va dire autre chose. Donc là, en fait, Dieu va nous montrer qu'il y a un abîme. Il y a un abîme où il y a un certain nombre de créatures qui sont dans cet abîme et qui vont sortir à l'initiative de Dieu sur un ordre divin. Ça,
il
faut bien comprendre. Rappelez-vous, nous sommes dans la tribulation. Les sceaux, c'est Dieu qui les domine et qui les veut, qui les ordonne. C'est lui qui ordonne ces choses. C'est fait par un mandat divin, par un ordre donné par Dieu. Les trompettes, c'est la même chose. Les coupes de la colère de Dieu, ça sera la même chose. Rappelez-vous, nous sommes dans le temps de la tribulation. C'est Dieu qui, au travers de ses anges, Dieu va exécuter ses jugements. On vous enseigne souvent que Dieu, actuellement, dans le temps de la grâce, ne juge pas la terre. Et nous insistons et réinsistons sur cette vérité parce qu'elle est tellement mal comprise par les gens. Les chrétiens et les prédicateurs n'arrêtent pas de parler que Dieu envoie la guerre là, Dieu fait un tremblement de terre là, Dieu fait ceci contre les hommes, etc. dans le temps de la grâce, et c'est faux. Par contre, là, nous étudions bien des jugements divins. Ça nous fait toujours penser au jugement que Dieu a envoyé sur l'Égypte. Les 10 plaies. Pour faire sortir son peuple. Dieu voulait faire sortir son peuple. Pharaon ne voulait pas. Dieu a montré au travers de Moïse qui il était. Et Pharaon a dû se courber devant la puissance de Dieu. Et là, c'était seulement sur un pays. Mais pendant la tribulation, c'est sur la terre entière où Dieu va envoyer ses jugements qui sont prophétisés dans sa parole. Les hommes pourront lire et sauront à l'avance le calendrier de Dieu. Que ça se passera sans appel et que c'est Dieu qui va faire ces choses. Là, Jean voit dans l'esprit, je vous le rappelle, dans le monde spirituel. Donc, il va parler d'un abîme. Et nous allons étudier un certain nombre de choses à propos de cet abîme. Alors, l'étoile qui tombe au verset 1, l'étoile qui était tombée du ciel sur la terre, c'est l'image, bien sûr, d'un ange qui a été ordonné par Dieu et qui va donner un mandat divin.
azanye ikintu Imana imurungitse gukora ku isi.
Il agit sur un mandat divin.
Agakora ari itegeko ry'Imana ahawe gukorera ko.
Et nous allons découvrir.
Tugira turabe.
Au centre de la terre.
Yuko tubona ingene musi y'isi.
Il y a du monde, une prison d'esprit.
Musi y'isi hariyo abantu, hari impwe muzibohewayo.
Sous nos pieds très loin, il y a quelque chose.
Musi birenge byacu kure gose ariko ntituzi yohagera mbwa hari ikintu.
Il est clair, nous allons le voir dans l'écriture.
Biraboneka mu ijambo ry'Imana.
Au centre de la terre.
Yuko hagati na hagati y'isi.
C'est là où va se trouver l'abîme.
Niho ikuzimu.
Et dans l'abîme, nous allons voir.
Kandi aho kuzimu.
Qu'il y a ce qu'on appelle le Tartaros.
Turaza kubona ko hari ico bita Tartaros.
Et qu'il y a aussi bien sûr.
Nikindi kandi.
L'enfer.
Bita umuriro.
Rappelez-vous d'une chose. Les esprits des hommes, quand ils quittent leur corps sur cette terre, ne se promènent pas autour de la terre. Je vous rappelle que quand quelqu'un meurt, soit il est escorté au troisième ciel, s'il est sauvé, soit il est escorté et aspiré vers l'enfer. Et personne ne ressort du troisième ciel. Personne ne ressort de l'enfer. Lorsque Jésus va revenir enlever son église, nous avons vu là, il ordonnera à tous les élus dans le troisième ciel de descendre et de ressusciter. Et c'est la même chose pour l'enfer. C'est une prison qui n'est pas gardée par des démons. Je
ne
sais pas pourquoi il y a des prédicateurs qui disent tous les démons de l'enfer dansent. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ça. Mais moi, ma Bible ne me dit pas du tout ça. Je
ne
sais pas d'où vient ce truc. Et on dit que le diable descend en enfer, qu'il va en enfer régulièrement, aller faire coucou et gratter les pieds des gens. J'exagère, mais on entend plein d'histoires comme ça. Que le diable est là, descend en enfer, qui fait ce qu'il veut en enfer, mais pas du tout. Satan n'a aucun pouvoir sur l'enfer. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Satan n'a absolument aucun pouvoir sur l'enfer. Nous allons voir qu'il y a un ange de Dieu. Dans la Bible nous révèle son nom dans ce passage. Qui garde cet abîme. Les démons d'un côté, qui sont emprisonnés, enchaînés. Nous allons le voir. Et aussi, les hommes qui sont morts en étant morts spirituellement, qui sont morts physiquement. Ne croyez pas des histoires. Il y a des gens qui croient, des fois des chrétiens nous racontent des trucs, mais on dit, mais attendez, la Bible dit rien, dit le contraire par rapport à ça. Rappelez-vous, votre référence, c'est la parole. Donc soyons bien clairs. C'est pour ça que j'essaye d'être très clair sur le monde invisible, parce que je sais qu'il y a beaucoup de superstitions, beaucoup de choses que les gens croient. Mais Dieu a mis un ordre dans tout ça. Une personne qui meurt, soit elle est sauvée, elle va aussi au troisième ciel. Et elle ne redescend pas sur la terre pour aller dire « Bonjour, comment ça va, vous, les chrétiens qui sont sur la terre ?» Il y a des gens comme ça qui vous disent des témoignages « J'ai vu telle personne qui était morte, qui m'est apparue pendant la nuit. » Les morts n'apparaissent pas pendant la nuit. Ni pendant le jour d'ailleurs. Les démons se font passer pour les morts. Et parfois, ils peuvent même, quand il y a une activité démoniaque, faire la voix d'un mort. Et certains peuvent avoir des visions sataniques. On leur fait croire que c'est le mort qui est devant eux. Mais ça, c'est du mensonge satanique. Et les gens, malheureusement, le croient parce qu'ils ont vu quelque chose. Mais la Bible, nulle part, ne nous montre ça. Dieu contrôle complètement l'abîme. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, il est dit ici. La clé du puits de l'abîme. Alors, ce mot qui a été traduit par abîme,
iri jambo rero basobanuye ngo urusumanyenzi,
c'est le mot grec abusos.
Niki jambo ry'ikigiriki abusos.
Et ça veut dire un abîme, un endroit extrêmement profond. C'est ça que ça veut dire.
Bisobanura ahantu ikinogo ikisumanyenzi nyene ahantu hare hare.
Et en fait, ce mot est utilisé pour désigner la prison des esprits.
Ni jambo rero bakoresha kugira ngo bavuge yuko
de ceux qui ont désobéi à Dieu, bien sûr.
Impwemu zabagambarira Imana banse kwizera Imana.
Tant pour les êtres humains.
Urumva haba impwemu z'abantu.
Que pour les démons.
Chanque impwemu za madaimon.
Alors, je vais vous montrer un texte, par exemple.
Ndagomba ndabereke nk'igice.
On va voir dans Luc chapitre 8.
Reka dusomere hamwe muri Luka igice cy'umunani.
Au verset 31.
Luc 8, 31.
Vous savez, il faut que vous étudiez la parole de Dieu. C'est Jésus qui va délivrer un démoniaque. Et cet homme était possédé dans son esprit par un démon, et il y avait plein de démons qui aussi possédaient son âme et son corps. Il est dit au verset 26 donc de Luc chapitre 8, il est dit, ils abordèrent dans le pays des Géraséniens qui est vis-à-vis de la Galilée, c'est-à-dire dans le nord d'Israël, verset 27. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé par plusieurs démons depuis longtemps. Il ne portait point de vêtements et il avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres, c'est-à-dire dans les cimetières. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et il dit d'une voix forte. Bien sûr, c'est les démons là qui vont se... Lui voulait être délivré et d'un seul coup, les démons se sont manifestés. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Bien sûr, c'était le démon qui possédait son esprit qui a commencé à parler comme cela. Verset 29, car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et de fer aux pieds. Mais il rompait les liens et il était enchaîné par le démon dans les déserts. Verset 30, Jésus lui demandait quel est ton nom. Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Alors en lui, faites attention, il y a esprit et âme ici. Verset 31, regardez, c'est ça qui m'intéresse là aujourd'hui, ce n'est pas la délivrance. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Verset 31, tu peux lire simplement.
Ngo baramwinginga ngo ntababarire kuja ikuzimu.
Alors ici, les démons disaient à Jésus, ne nous envoie pas dans l'abîme, abusos. Et il y a une raison pour laquelle ces démons disaient cela. Parce qu'ils savaient bien qu'il y avait des petits copains qui étaient là-bas déjà. Parce que ça remonte à une très vieille histoire. Une très vieille histoire. Lorsque le diable s'est rebellé, nous le verrons un peu plus tard dans l'Apocalypse. L'Apocalypse en fait mention. Il y a un tiers des anges qui ont suivi le diable. Et ce tiers des anges qui a suivi le diable, bien sûr, sont les démons. Et ces démons, eh bien, ont été évidemment une partie, donc il y a eu une immense bataille dans le ciel, nous le verrons un peu plus tard, parce que c'est un texte qu'on étudiera un peu plus tard dans l'Apocalypse 12. Et ces démons, une partie de ces démons, bien sûr, ont été capturés. On va regarder l'épître de Jude au verset 6. Je vous rappelle que Jude n'a pas de chapitre, il n'a qu'un seul chapitre, donc on dit simplement le verset. Jude, verset 6.
Reka dusome Yuda, umurongo wa gatandatu, Yuda nta bice igira, Yuda ni mbere y'ishure Yohana.
Et là, la Bible va nous parler justement de ces anges.
Hanyuma ha rero Bibiliya iratubwira abamarayika bayo.
Alors, on va lire, ça dépend des versions, enfin voilà. Je vais vous rappeler que vous savez fort bien ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, verset 6, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Oh là là, c'est pas une très bonne version, ça. Ils ont un peu inversé la phrase, je trouve que ça c'est pas très parlant comme ça. Ici, il est dit dans la deuxième partie, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a réservés pour le grand jour du jugement. Ils sont enchaînés éternellement dans les ténèbres, littéralement. Alors, je vais vous lire ma version, parce que franchement, cette version-là n'est pas très parlante. Je ne sais pas en Kirundi si c'est très parlant ou les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres en attendant le grand jour du jugement. Donc nous savons qu'il y a des anges qui n'ont pas gardé leur dignité, c'est-à-dire qui ont péché contre Dieu, qui se sont rebellés contre Dieu. Et en fait, ceci, si on lit plusieurs passages, par exemple 2 Pierre 2, verset 4, on a aussi mention d'anges qui ont péché contre Dieu. Et qui ont été capturés. Regardez bien, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, qu'est-ce que c'est qu'un ange qui a péché? C'est devenu un démon, c'est-à-dire quelqu'un qui a désobéi. Un être qui a désobéi, c'est devenu un démon. Mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les a réservés pour le jugement.
Ngo kuko kw'Imana itagiriye ikigongwe abamarayika bakoze ibyaha ariko ikabakororera ikuzimu ikabashira mu byobo by'umwiza ngo barindigwe kuzocigwa kwiteka.
Alors c'est un petit peu dommage qu'en Kirundi vous n'avez qu'une expression, c'est ikuzimu, ça a l'air d'être une expression qu'on passe partout entre guillemets, alors qu'il y a vraiment des mots différents, des mots grecs très différents.
Amajambo yose bagenda barakoresha mu Kirundi ni kuzimu, ariko ugiye kubiraba hamwe hose usanga hafize izina n'ubwo bakoresha hose mu kuzimu.
Ici on voit qu'il y a eu quelque chose qui s'est produit, il y a un certain nombre d'anges qui se sont rebellés contre Dieu.
Ah, ikintu tubona nuko harabamarayika igitigirikana kabagarariye
Imana. Bibiri n'ont pas gardé leur dignité.
Bibiri vuga ngo bataye ubukuru bwabo muri Yuda.
Bon, ici on voit les anges qui ont péché.
Ahanye baravuga ngo abamarayika bacumuye bakoze
ibyaha. Donc Dieu les a précipités. Il y a une partie du tiers des anges. On verra pourquoi je parle du tiers des anges un peu plus tard dans l'Apocalypse. Une partie du tiers des anges qui ont suivi le diable dans sa rébellion. Et une partie du tiers, il y a eu une grande bataille dans le ciel. Entre les anges qui sont restés fidèles à Dieu et ceux qui ont suivi le diable dans sa rébellion. Et d'après certains autres textes, quand on regarde l'image globale, un certain nombre d'anges qui ont péché, Dieu les a capturés et les a mis dans, ici il est dit, dans l'abîme des ténèbres. Et cette expression abîme des ténèbres, c'est un mot grec qui vient d'un mot qu'on appelle le Tartaros. Donc c'est un endroit spécifique, prison d'esprit. Prison de mauvais esprit. Où Dieu les a précipités, les a enchaînés, c'est-à-dire les a bloqués. Ils ne peuvent plus agir. Et cette partie, évidemment, fait partie de l'abîme. Donc dans l'abîme, il y a une partie que la Bible appelle le Tartaros, où c'est des anges déchus, des démons. Une partie du tiers qui s'est rebellé contre Dieu, qui est en prison, et qui sont parfaitement gardés par des anges, des créatures divines, dont l'Apocalypse, au chapitre 9, nous parle. C'est justement ce qu'on est en train d'étudier. Il y a un ange qui a la clé de l'abîme, nous dit la parole. Quand on relit ce passage que nous venons de lire dans l'Apocalypse 9, je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Je vous rappelle que ça, ce n'est pas physique, c'est une image, une allégorie pour dire qu'il y a un ange qui est là et qui a transmis un mandat divin la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. La deuxième partie de l'abîme, c'est ce que la Bible appelle le séjour des morts. Et le séjour des morts, c'est réservé pour les hommes. Alors, maintenant, je ne veux pas rentrer trop longuement dans un enseignement qui serait un peu trop long. Mais il faut distinguer avant la résurrection de Jésus et depuis que Jésus est ressuscité. D'abord, nous allons remarquer une chose. Lorsque Jésus est mort à la croix, au moment même où Jésus a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », Jésus était 100% homme et 100% Dieu.
Et
nous savons qu'il est devenu péché sur la croix, qu'il est devenu malédiction en général, péché, pauvreté, maladie. Lorsque Jésus a reçu ce transfert de notre nature de péché, Jésus n'a pas été au ciel directement. Quand il est mort physiquement, la Bible nous dit, écoutez bien ici, ce que la parole de Dieu nous dit, dans Romains chapitre 10, verset 7, on va nous dire où est-ce que Jésus a été lorsqu'il est mort. On va lire peut-être un petit peu plus haut et puis après on lira quelques versets un peu plus bas pour avoir le contexte. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. Qui montera au ciel parce que, en fait, comment est-ce que l'homme aurait pu être justifié ? L'homme pécheur pouvait être justifié comment ? Paul dit ici, mais qui montera au ciel ? Est-ce qu'il y a un homme qui va construire une échelle assez grande pour aller au troisième ciel ? Bien sûr que non. Nous ne pouvons pas. Aucun homme ne pouvait aller au ciel. Pour dire à Dieu, Dieu, pardonne-moi. Il a fallu que Dieu descende du ciel et se fasse homme. C'est un des grands principes de la rédemption, de notre rachat. Qui montera au ciel ? C'est en faire descendre Christ. Qui descendra dans l'abîme ? C'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Le mot ici, abîme, c'est encore le mot abyssos. Qu'on a vu dans l'Apocalypse chapitre 9, au verset 1, on a vu aussi lorsque le démon dit à Jésus, ne nous envoie pas dans l'abîme, l'abyssos. Donc il est clair, Jésus est descendu dans l'abyssos, l'abîme. Toujours ikuzimu. Il y a de quoi être confus. Mais bon, c'est pour ça qu'on donne des explications. Donc en fait, on sait aussi que dans l'abîme, abyssos, il y a aussi des esprits humains. Et effectivement, Jésus lui-même, la Bible nous dit dans Actes 2:27 que Jésus était dans le séjour des morts. Là, il est dit, parlé de Jésus, si vous lisez Actes 2, c'est Pierre qui prêche l'évangile et il dit, en parlant de Jésus, c'était une parole prophétique, tu n'abandonneras pas mon âme ou ça dans le séjour des morts. Alors, quand vous étudiez vraiment la parole, il y a plusieurs pistes qui vous permettent de comprendre comment est fait cet abîme,
abyssos.
Nous avons vu, il y a une partie pour les démons qui ont été capturés lors de la rébellion du diable. Ça, c'est Tartaros. Maintenant, nous savons aussi qu'il y a le séjour des morts pour les êtres humains. Mais Jésus va nous donner une autre explication, enfin une explication complémentaire, pardon.
Il va falloir qu'on comprenne.
Et on va être éclairé à propos de ça.
Jésus va donner une parabole.
Dans Luc chapitre 16.
Et il va nous parler de quelque chose d'un peu étonnant.
Il va nous parler du sein d'Abraham.
Luc chapitre 16.
Il nous donne une parabole à propos de l'homme riche et du pauvre Lazare.
À partir
du verset 19, rappelez-vous, c'est une parabole. Et une des règles d'interprétation de la Bible,
c'est
que dans une parabole, on ne peut pas prendre tous les détails pour les interpréter. Il n'y a qu'un certain nombre de vérités dans une parabole qu'on fait ressortir. C'est ça l'objectif d'une parabole. Si vous commencez à prendre une parabole et que vous voulez tout interpréter au moindre détail, au bout d'un moment, vous allez vous contredire.
Ou
contredire d'autres passages de la parole de Dieu.
Ici,
c'est pareil, Jésus ne dit pas que tous les riches vont aller en enfer et que tous les pauvres vont aller dans le sein d'Abraham.
C'est pas ça.
Cette parabole explique les gens qui sont riches pour eux-mêmes.
Ce n'est pas
les richesses naturelles.
Et
les gens qui se sentent pauvres pour eux-mêmes, c'est-à-dire qui ont besoin de Dieu et qui reconnaissent leur besoin de Dieu. C'est ça l'image.
Et donc
il y avait un homme riche, quelqu'un qui se pensait riche pour lui-même, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'avait pas besoin de Dieu, qui était vêtu de pourpre et de fin lin et chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Verset 20, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères. Verset 21, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient sur la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Verset 22, le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Regardez bien cette expression ici, sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Verset 23, dans le séjour des morts. Eh bien, on a le sein d'Abraham dans le séjour des morts. Merci pour Bob qui nous affiche tout ça très, très clairement. Il leva les yeux, et tandis qu'ils étaient en proie, le riche, qui était dans le séjour des morts aussi, au proie, au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Verset 24, il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre, regardez bien, je souffre cruellement dans cette flamme. Verset 25, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu ses maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Verset 26, d'ailleurs il y a entre nous et vous un grand abîme, un grand fossé littéralement, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous et ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc Père Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Verset 29, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Verset 30, il dit non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Verset 31, et Abraham leur dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront même pas persuader, comme quelqu'un des morts ressusciterait. Ici, c'est une parabole pour montrer plusieurs choses. D'abord que ceux qui meurent en tant qu'être humain ne cessent pas d'exister après la mort physique. Parce que de toute façon, tous les êtres spirituels existent pour l'éternité. Les deux catégories d'êtres spirituels, je vous rappelle, ce sont les hommes et ce sont les anges. Les êtres angéliques.
Ni abamarayika ni nabantu.
Et les hommes comme les anges ne cesseront d'exister pour l'éternité.
Kandi abantu n'abamarayika bazokwama babaho ibihe bitazoshira.
Ils sont éternels, mais par contre la Bible va nous parler de vie éternelle ou de mort éternelle.
N'abantu rero bazokwamaho babaho mugabirika kitubwira ko hariho urupfu rw'ibihe bizokwamaho n'ubuzima bw'ibihe bizokwamaho.
Mais la Bible nulle part ne dit que ce soit les anges ou que ce soit même les démons, donc les anges déchus, ils vont cesser d'exister un jour.
Ariko nta hamwe bibiri tubwira ko abamarayika babamarayika cyangwa amadayimoni bazoreka kubaho.
Non, une créature spirituelle n'a pas de fin, elle a un commencement quand Dieu l'a créée.
Ikiremwa rero chimwe mu cyose gifise impwe mu cyose Imana gifise aho gitangura Imana ikiremwa.
Mais elle n'a pas de fin.
Ariko ntigifise aho gihereza kiguma
kibaho. Ça veut dire qu'elle ne cesse jamais d'exister.
Kicacamaho ntigihagarika kubaho.
Maintenant, l'éternité peut être passée auprès de Dieu dans sa présence.
Ubu rero ibihe bitazoshira umuntu ashobora kubibaho mu bwiza bw'Imana.
Ou dans la damnation éternelle, dans le jugement éternel.
Chanke mu gihano cy'ibihe bitazoshira.
Et c'est vrai pour les anges, c'est vrai pour les hommes.
Niko bimeze ku bamarayika, niko bimeze no ku bantu.
Donc ici Jésus nous donne une parabole et nous donne une expression, le sein d'Abraham. C'est la seule fois que vous trouverez cette expression dans la Bible. Et Jésus n'a pas utilisé cela d'une façon hasardeuse, fortuite. Jésus a utilisé cette expression parce que pour les Juifs, elle signifiait bien quelque chose de très précis. Abraham, c'était leur père.
La souche des Juifs.
Mais aussi, c'était l'exemple de la marche par la foi. Donc l'idée, bien sûr, du Saint d'Abraham, c'est de parler des gens qui ont la foi comme Abraham. C'est-à-dire qui ont cru sans voir.
C'est
l'idée ici. Vous remarquez que ceux qui sont dans le sein d'Abraham, le pauvre Lazare, lui ne souffre pas. Le riche, qui est l'image du pécheur, bien sûr, qui est mort, lui est dans un lieu de tourment, de souffrance. La Bible nous dit qu'il y a un fossé inséparable entre les deux. Alors beaucoup de gens ont posé des questions parce qu'ils se sont dit, mais nous les chrétiens, si on meurt, on va dans le sein d'Abraham. La réponse est non, bien sûr. Parce que cet endroit, en fait, le séjour des morts, avant la résurrection de Jésus, le séjour des morts était constitué en deux parties. Le Saint d'Abraham où ceux qui croyaient et qui attendaient le Messie et qui avaient marché avec Dieu, ils allaient. Une partie des Juifs qui avaient marché avec Dieu, qui pratiquaient la loi, qui croyaient dans le Seigneur, ont été dans le sein d'Abraham. Certains n'ont pas été dans le sein d'Abraham. Ils ont été dans l'autre partie, l'enfer. Je crois sincèrement que Saül n'a pas été dans le sein d'Abraham. Le roi Saül. C'est quelqu'un qui a renié Dieu et qui a été complètement dans les choses de la sorcellerie. Donc, dans le sein d'Abraham, on trouvait David. On trouvait plein de Juifs qui étaient là. On trouvait aussi des gens qui ont cru dans l'Ancien Testament, mais qui n'étaient pas forcément du peuple juif. Qui attendaient le Messie. Et qui ont une certaine révélation de Dieu. Je vais vous donner des exemples de non-juifs qui ont été dans le sein d'Abraham. Est-ce que Noé était juif?
Ben
non. Parce qu'il est venu avant Abraham. Est-ce que Abel était juif? Le fils d'Adam et Ève. Qui a été tué par son frère
Caïn.
D'ailleurs, Abel, ça a été le premier, dont la Bible d'ailleurs rend témoignage dans Hébreux chapitre 11. Ça a été le premier homme qui est parti de cette terre parce qu'il a été assassiné par son frère. Et Abel a été le premier qui est descendu dans le sein d'Abraham.
niwe azoba wa kera muri agikiriza cha Aburahamu.
Mais regardons, Caïn, lui, il a été en enfer.
Ariko Gahini wewe yagiye mu muriro.
Job n'était pas juif non plus, c'était un arabe.
Yobu nawe ntiyari umuyuda, yari umwarabu.
Mais il croyait dans le Seigneur.
Ariko yarizera Imana.
Il était là et il marchait avec Dieu selon sa connaissance.
Yaraho agendana n'Imana mu bumenyi yarafise.
Et Job quand il est mort a été dans le sein d'Abraham.
Yobu apfuye yagiye mu gikiriza cy'Abraham.
Pourtant il n'était pas juif.
Ariko ntiyari umuyuda.
Et la Bible ne nous relate pas dans l'Ancien Testament toutes les personnes.
Bibiliya ntitubwira abantu bose mu isezerano rya kera.
Qui ont marché avec Dieu.
Bagendanye n'Imana.
Elle nous relate un certain nombre de personnages clés qui ont marché avec Dieu.
Iratubwira abantu bamwe na bamwe bakomeye bagendanye n'Imana.
Maintenant, le saint d'Abraham, est-ce qu'il y a des gens dedans aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils sont devenus ces gens s'il n'y en a plus?
Bega igikiriza cy'Aburahamu none uyu munsi abo bose barimo bacitse iki cyanke baracarimo?
Et bien nous allons trouver une réponse.
Reka turabinyishu.
Dans Éphésiens chapitre 4.
Mwanye Efeso igice cha 4.
Éphésiens chapitre 4.
Abanye Efeso igice cha 4.
Vous voyez, quand on étudie la parole de Dieu, et qu'on recherche et que vraiment on cherche ce qui se passe réellement, Dieu nous donne des réponses. Et Éphésiens 4 va nous donner vraiment des réponses très intéressantes. Alors, la Bible va nous dire, à partir du verset 7, elle va nous parler justement du parcours de Jésus, entre guillemets. La Bible nous dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Verset 8, c'est pourquoi il est dit, en parlant de Jésus bien sûr, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Verset 9, que signifie il est monté? Montez où? Au ciel, au troisième ciel, bien sûr, à la droite du Père. Sinon aussi, regardez bien, qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Verset 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Alors on va revenir sur le verset 9.
Ngo ariko umuntu wese muri twebwe yahawe ubuntu nk'uko tugeregwa ingabire ya Kristo, nico gituma ivuga iti yaraduze ajahe iyo hejuru ajanye iminyago agabira abantu ingabire. Oyaduze ni Kristo bavuga, ariko iryo jambo ngo yaraduze ni iki? Mbega ntigerekana yuko yabanje kumanuka ikuzimu?
La Bible nous dit au verset 9, chapitre 4 verset 9, je vais vous le lire littéralement dans le grec.
Reka ndabasomere mu kigiriki nsobanuye iri jambo ry'umurongo w'icyenda ngo uvuga.
Il est dit verset 9, sinon qu'il est descendu aussi dans, c'est-à-dire littéralement vers, en direction des régions, des endroits, des parties du territoire inférieur d'en bas de la terre, du globe terrestre.
Ngo mbega ntibisobanura ko yamanutse agana ibice byo munsi, ibice bimwe na bimwe, ibice byo mu kuzimu munsi y'isi.
Donc il est clair, il nous parle des régions inférieures de la terre.
Urumva aratubwira ngo ahantu munsi y'isi.
Il nous parle bien que Jésus est descendu au centre de la terre, dans les régions inférieures de la terre. C'est vraiment ce que le grec signifie ici.
Urumva bavuze ikuzimu baranatomora ngaha mu kigiriki yuko ari aha munsi y'isi tubayeko.
Alors, quand on résume un peu tout ça, on sait que Jésus a été où? Jésus a été dans l'abîme, Abyssos.
Mais
plus précisément, dans ses jours des morts, acte
2:27.
Éphésiens 4 nous dit, dans les régions inférieures de la terre. Donc il est très clair que l'abîme est dans les régions au centre de la terre. C'est ce que la Bible nous montre clairement. Et là, il y a cette prison d'esprit mauvais, démon,
Tartaros.
Autre partie, séjour des morts. Divisé en deux. Le sein d'Abraham. Et l'enfer. Là où les gens, les pécheurs descendent. Alors maintenant, vous allez me dire, mais vous avez parlé du saint d'Abraham, oui. Mais Éphésiens 4, verset
8,
nous dit, c'est pourquoi il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. C'était qui ces captifs?
C'était
ceux qui étaient dans le sein d'Abraham.
Ni abo bose bari mu gikiriza cha Abraham.
David?
David.
Et tous les saints de l'Ancien Testament, Abraham lui-même.
Abraham, abera bose.
Et tous ceux qui attendaient le Messie, mais comme le Messie n'était pas venu.
Bari barindire Messia, mwa Messia ntiyari
bwa. Dans l'Ancien Testament, qui ont cru, qui ont marché avec Dieu.
Ngisezerano rya kera bizeye bagendanye
n'Imana. Mais qui n'étaient pas nés de nouveau.
Ariko batari bakijijwe batari bavutse ubwa kabiri.
Parce qu'ils ne pouvaient pas naître de nouveau.
Kuberako bitashoboka ko bavuka.
Pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas naître de nouveau?
Kuberako bitashoboka.
Parce que Jésus n'était pas encore venu.
Kubera Yesu atari bwaze.
Que le royaume a été ouvert pour nous.
Ubwami bwugururiwe twebwe.
Au travers de la nouvelle naissance.
Biciye mu kuvuka ubwa kabiri.
Il n'était pas né de nouveau, Jésus n'était pas mort ni ressuscité.
Yesu ntiyari bwapfe ngo azuke.
Donc quand il mourait, ils attendaient le Messie prophétiquement. Mais il mourait encore mort spirituellement, tout en marchant dans la connaissance de Dieu qu'il pouvait avoir à l'époque avec l'alliance que Dieu avait faite avec les hommes. Et il ne pouvait pas aller au ciel. Et soit dit en passant, ni Élie, ni Enoch ont été au troisième ciel.
Il
y a beaucoup de gens qui le croient parce qu'ils lisent la Bible n'importe comment.
Et
Enoch et Élie sont morts d'une manière un peu particulière. Si vous voulez mourir comme eux, c'est très simple. Vous vous débrouillez pour vous introduire dans une fusée de la NASA la prochaine fois. Vous vous
débrouillez winyegeze ahantu uje muri cha bya bigenda juru vya NASA.
Et juste avant le décollage, vous ouvrez la fenêtre.
Hanyuma haja igira isambuke uce ugura kadirisha
de la capsule.
Haja igirive mukantuze uce ugura kadirisha.
Je sais pas si on peut l'ouvrir, mais supposons qu'on peut l'ouvrir.
Twibaze ko yuguruka.
Et la fusée va monter.
Urumva izokiduga.
Et au bout de quelques kilomètres en hauteur, vous allez faire. Et vous allez mourir parce qu'il y a plus d'oxygène.
Akadirisha kuguruye hakabare nk'agahantu kazana impwe muziyo hejuru ushitse mu birometro byinshi hariya ucupfa kuko nta mpwe muronga.
Eli et Enoch ont eu des morts physiques très particulières.
Urumva Eliana Enoch bapfuye urupfu rusa
n'ubwo. Mais la Bible n'a jamais dit.
Ariko Bibiliya ntigeze ivuga.
Ils ont été au troisième ciel en présence de Dieu.
Mwijuru rya gatatu.
Ils n'ont pas été dans la présence de Dieu.
Ntibagiye mu bwiza bw'Imana mwijuru rya gatatu.
Parce que sinon Jésus serait mort pour tous.
Kuko atari uko Yesu yari kuba yapfiriye bose.
Sauf pour Élie,
kiretse Eliya,
et sauf pour Enoch,
kiretse Enoch,
et sauf pour Sainte Marie,
kiretse kandi na Bikira
Maria. Pourquoi pas sinon? Si on peut avoir un salut sans être sauvé par la grâce,
nimba byoshoboka ko umuntu ajya mwijuru nuko agukizwa adaciye
ubuntu. Ça veut dire que même les doctrines des églises traditionnelles seraient vraies alors. Et que la Bible mentirait, que Jésus n'est pas mort pour tout le monde. Soyons clairs. Il n'y a de salut en aucun autre. Si quelqu'un pouvait aller au ciel à n'importe quel moment, même dans l'Ancien Testament, sans être né de nouveau, ça voudrait dire que Jésus nous a acquis un salut parfait, moins deux. Non, la Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre moyen d'être sauvé. Par contre, quand Jésus est mort, que le Père l'a fait ressusciter, il a offert son sang en sacrifice au ciel, au troisième ciel, et après être monté dans les hauteurs, il est revenu et il a emmené des captifs. Il a fait naître de nouveau ceux qui attendaient le Messie et qui étaient dans le sein d'Abraham. Il a vidé ce sein d'Abraham avec tous ceux qui étaient là et qui étaient dans l'attente du Messie. Et ils ont été au troisième ciel à ce moment-là. Vous voulez une autre preuve? C'est très simple. Il n'y avait, on a étudié les visions de l'Ancien Testament. Du ciel. Que ce soit la vision d'Ézéchiel, les visions d'Ézéchiel. Que ce soit toutes les visions qu'on a vues dans l'Ancien Testament.
Ésaïe. Yesaya yeretswe.
Même David qui a vu le trône.
Na Dawidi ngene yabonye ntabe inganje y'Imana.
Nulle part vous voyez qu'il y a des gens autour du trône dans l'Ancien Testament.
Nta hamwe bakwereka ko hari abantu bakikuje ntabe inganje y'Imana mwijoro
rya. Parce que c'était pas possible.
Kuko ntivyashoboka.
Parce que personne n'était né de nouveau pour aller au ciel directement.
Ico gihe ntanumwe yashobora kuvuka ubwa kabiri ngo aje mwijoro.
Donc le sein d'Abraham est vide maintenant.
Uyu munsi rege kiriza cha Abraham
kiragaragara. L'abîme, il ne reste que les gens qui sont en enfer.
Ikuzimu hasigaye abari mu muriro.
Et le Tartaros où il y a encore les démons capturés. Et on sait que c'est gardé par un ange puissant de Dieu. Et Jean va voir dans l'Apocalypse comment justement ces anges qui sont là et qui tourmentent les hommes. Parce qu'en enfer, les hommes sont tourmentés. Et dans le Tartaros, les démons sont tourmentés. C'est pour ça d'ailleurs que le démon qui était dans le possédé de Gadara
suppliait
Jésus de Nazareth d'ailleurs. Il suppliait Jésus de ne pas l'envoyer là-bas.
Et
Jésus ne l'aurait pas fait parce qu'il n'avait pas autorité pour le faire pour l'instant. Les démons qui sont en action au premier et au deuxième ciel seront un jour capturés. Nous le verrons à la fin de l'Apocalypse. Donc la leçon de ce soir est très simple. Il y a un monde sous nos pieds au centre de la terre.
Qui est bien
gardé par Dieu. Ce monde, la Bible l'appelle l'abîme,
l'abyssos.
Il y a des démons, c'est-à-dire des anges déchus, qui ont été capturés, une partie du tiers des anges déchus, qui sont en prison dans ce Tartaros. C'est gardé par des créatures. Nous verrons qu'il y a un roi, quelqu'un à qui Dieu a donné une autorité de régner sur ce monde. Qu'il y a des créatures forcément angéliques à qui Dieu a donné un pouvoir de tourment. On
ne
dit pas de tourmentation, mais vous comprenez ce que je veux dire. Un pouvoir pour tourmenter les êtres spirituels. Et Dieu va ordonner à celui qui est roi de l'abîme et à ces créatures qui tourmentent les esprits de venir tourmenter les hommes. Nous verrons que ça sera une partie de l'enfer qui va entre guillemets se répandre sur la terre pendant 5 mois.
Et
les hommes vont être tourmentés sans mourir. Nous étudierons ça la prochaine fois. Nous avons une description de ces créatures. Que Dieu vous bénisse. Bon retour et bonne soirée à tous.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.